nage libre, justement pour battre le record du monde qu'il avait frôlé de 10 centièmes au championnat de France. Avec son forfait, les Français sont désormais 43 nageurs au Danemark, 23 garçons et 20 filles. À Herning, Franck Ballanger, France Inter.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Je vous donne rendez-vous pour la 6e édition du Sportif Français de l'année des auditeurs de Radio France. Votez jusqu'au 31 décembre sur franceinter.fr pour choisir celui ou celle qui vous a fait le plus vibrer cette année. L'annonce du lauréat et de la remise des prix auront lieu le 15 janvier en présence des parrains Eunice Barber et Fabien Barthès.
Le Sportif Français de l'année en partenariat avec InfoSport Plus et Le Parisien Aujourd'hui en France. Ce lundi, à partir de 20h,
la parole est aux citoyens d'antan.
Rendez-vous avec Jean Lebrun au Théâtre du Vieux Colombier à Paris.
Lors de la dernière session, nous en étions à la Révolution.
Représentants du peuple français, jusqu'ici, nous avons décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls.
Notre prochaine reconstitution de débat parlementaire en public avec les comédiens du français, ce sera le lundi 16 décembre.
Mais aujourd'hui, nous proclamons à la face de l'univers la liberté.
Deux thèmes.
Universel.
1865, le Paris d'Haussmann. 1981, la décentralisation de Gaston Defferre.
Réservez dès maintenant vos places en téléphonant au 01 44 39 87 00. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter,
la voix est libre.
France Inter, il est 15h05, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
J'ai appris la mort de Jean-Louis Foulquier, un peu triste parce que je l'écoutais beaucoup à Pollen. Voilà, quand il est parti en 2008, j'étais aussi triste. Et aujourd'hui, j'ai appris sa mort et donc c'est pas évident parce que c'était un mec que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup écouter. Il donnait la parole à beaucoup d'artistes qui étaient plein de talent et qui étaient pas très connus dans les médias. Et c'était que du bonheur, voilà. C'est des mecs comme ça qu'on veut dans Inter. Des mecs humanistes, ouais, qui aiment les gens. Allez, bisous, à bientôt, ciao.
Jean-Louis Foulquier, toi qui as osé la chanson française, contre vent et marée anglophone, qui l'a portée à bout de bras parfois, toi qui par ta voix chaude, généreuse et rassurante, m'a embarqué sur les ondes de France Inter et a fait que France Inter s'ouvre sur la France entière en donnant une chance aux voix, souvent condamnées à rester muettes face aux portes fermées des dinosaures que sont devenues les maisons de disques. Voilà, je suis très triste de m'être réveillée ce matin avec cette nouvelle. J'avais beaucoup de tendresse pour Jean-Louis Foulquier, et puis 70 ans, c'est bientôt pour nous quitter. Allez, ciao, et sache que tu as essaimé tant de grains de pollen avant de partir, que tu seras toujours dans nos mémoires, et que tu pars en laissant plein de petites abeilles qui continueront à butiner sur les notes de musique de chez nous, et d'ailleurs. Allez, ciao, c'est Valence.
Bonjour, j'ai appris ce matin, Jean-Louis Foulquier est mort. J'ai beaucoup de chagrin. Parce que j'ai le même âge que lui, enfin j'ai 2 ans de plus. Moi j'ai des souvenirs de lui, j'ai toujours très souvent entendu, j'ai écouté Pollen, je me rappelle une émission où l'après-midi où il était avec Leslie Bedos. J'ai entendu plein de gens que je ne connaissais pas à l'époque. Si on est allé voir Yves Jamais, nous, à 130 km de chez nous, dans notre campagne bretonne, c'est grâce à lui. Si j'ai acheté le disque d'Yves Mouvrigny avec 500... C'est grâce à lui. Je me rappelle dans les dernières émissions qu'il faisait avec Ambre. C'était très intéressant. Et il y a tellement de gens qu'il a fait connaître. Vraiment, j'ai beaucoup de chagrin. Je pense à toute sa famille et à ceux qui lui sont proches. Et je les embrasse très très fort. Et j'ai une profonde reconnaissance envers lui. Et ben, je vous embrasse tous bien fort. À bientôt. Au revoir.
Jean-Louis Foulquier est mort hier. France Inter lui rend hommage largement. Et c'est bien la moindre des choses. En oubliant quand même qu'il y a un certain nombre d'années de cela, c'est quand même France Inter qui a viré Foulquier pour des raisons pas très claires, pas très nettes et en tout cas certainement pas très justifiées.
Ben oui, et Jean-Louis Foulquier Dans un entretien en mai 2013, récent donc au Parisien, le journal Le Parisien, la journaliste lui demandait « Mais alors, qu'est-ce que vous écoutez comme radio ?» Et il disait « J'écoute pas France Inter parce que je zappe, je boude France Inter qui m'a viré. France Inter, c'est ma maison. » Je cite Foulquier. « Je lui dois beaucoup. La décision est tombée à la veille de mes 65 ans, en 2008, au cours d'une réunion devant tout le monde. J'apprenais qu'on voulait mettre une émission de musique à la place de mon programme. Alors j'ai demandé devant tous, ce sera avec moi ou sans moi ? Et le directeur, Frédéric Schlesinger, m'a répondu, sans toi, merci pour tout ce que tu as fait. Je ne me suis pas répandu dans la presse. J'ai même pas eu droit à une coupe de champagne pour mon départ. Voilà, Foulquier a été viré comme ça. Après tout ce magnifique travail, il a donné une partie de sa vie à... pas seulement à cette antenne, mais à la chanson. Et effectivement, au moment où France Inter est en train de lâcher son public populaire, eh ben le père Foulquier, il avait réussi à rendre la poésie de la chanson populaire, parce que Thiéphaine, Higelin, d'autres, beaucoup d'autres. C'est pas évident, hein. C'est de la poésie quand même. Il a rendu ça populaire, n'importe qui aujourd'hui sifflote beaucoup de ces gens-là. Et puis il remplissait parfaitement le rôle qui est le nôtre ici, c'est de découvrir, de faire des découvertes, d'être à l'avant-garde tout en étant populaire et poète et savant à la fois. Merci. Jean-Louis, un de ces quatre. Voilà. Autre chose de tout à fait différent. Notre sujet du jour. On continue avec Mandela, avec cette phrase prononcée par Mandela en 1997. Nous savons bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Et cette phrase, depuis 1997, évidemment, est gravée dans le cœur des Palestiniens. Et la mort de Mandela a suscité une profonde émotion et de grandes manifestations dans les territoires palestiniens, dans cette peau de chagrin qu'on appelle encore Palestine. Et du fond de sa prison, Marwan Barghouti, le Mandela palestinien, a répliqué par un message qu'il a envoyé hier, celui-ci, l'apartheid ne l'a pas emporté en Afrique du Sud et ne l'emportera pas en Palestine. C'est une façon de vous présenter notre invité du jour. C'est une très grande historienne israélienne, Idit Zertal, qui fait partie du groupe des nouveaux historiens israélien, qui a enseigné un peu partout dans le monde, une grande spécialiste et traductrice d'Anna Arendt, et qui publie un bouquin remarquable qui s'intitule « Les seigneurs de la terre, une histoire de la colonisation israélienne des territoires occupés, vous le savez, depuis 1967, en violation du droit et des lois, la colonisation rend la paix impossible et constitue la source empoisonnée de nombreux conflits, de violences et de souffrances à travers le monde. C'est donc notre invité du jour, notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Jean-Louis Foulquier est parti, je suis triste. C'est Daniel du repère de Bordeaux-Bacalan, je vous propose mon message pour le repère de ce soir. Au repère de Bordeaux-Bacalan, ce soir, Marion Paoletti, enseignante en sciences politiques, viendra discuter avec nous d'un grand sujet, à la mode, au plan local. La démocratie participative, faut-il s'en méfier ou y adhérer et la soutenir ? Venez en discuter avec nous ce soir au bar de la Marine, 28 bis rue Achard, Pram Achard. A tout à l'heure, merci pour tout ce que vous faites.
Oui, bonjour et merci pour toutes vos émissions. Donc voilà, moi c'était juste un message, une petite pensée pour les membres des Pussy Riot, je ne sais plus, enfin les chanteuses russes qui sont enfermées parce qu'elles ont été chantées une chanson contre Poutine dans une église là-bas. Donc voilà, une grande pensée pour eux dans ce genre de deuil et de commémoration par rapport à Nelson Mandela. Donc voilà, on a tous nos présidents qui sont là-bas, tous autant qu'ils font. Et bah, c'est sûr que le sort de ces trois petites punkettes importe peu comparé aux millions qui se négocient pour leur vendre par exemple des porte-hélicoptères pour nous les Français. Et voilà, donc une pensée pour elles et il faut les soutenir.
I said it is no use for Israel to talk of it.
Nelson Mandela, à Gaza, 20 octobre 1999.
Je dis qu'il est inutile pour Israël de parler de paix.
If they still hold on Arab territories which they conquered during the Six-Day War in 1967.
Tant qu'il occupe les terres arabes conquises durant la guerre des Six Jours, 1967.
Salut, c'est Daniel Mermès, c'est la basse j'y suis avec Edith Zertal, les seigneurs de la terre.
Flight number 2, arriving from New York.
Edith Zertal, je suis très content qu'on se retrouve. La dernière fois, c'était il y a 8 ans.
Oui, 8 ans passent.
Le 8 ans, et on s'était vu pour le bouquin que vous aviez publié à l'époque, La Nation et la Mort. Ça avait beaucoup intéressé nos auditeurs. Et là, vous sortez un autre bouquin en français, Les Seigneurs de la Terre, une histoire de la colonisation israélienne des territoires occupés, au seuil, avec Akiva Eldar. Ouf, les auditeurs se disent quoi, l'histoire de la colonisation israélienne des territoires occupés, ça va être vraiment un truc, on va roupiller, c'est un sujet de politique étrangère. Oui, c'est vrai que c'est un sujet de politique étrangère, sauf que, eh ben, ça nous concerne, l'histoire de la colonisation israélienne des territoires occupés, ça nous concerne. On le sait, ou on l'oublie, ce qui se passe dans cette partie du monde, et qu'on appelle couramment le conflit israélo-palestinien, a un retentissement, non seulement dans toute la région, mais aussi chez nous, bien évidemment. Edgar Morin, et ça lui avait coûté cher, avait parlé d'un cancer et de ses métastases. C'est une métaphore un peu violente, mais qui n'est pas entièrement fausse, qui avait le mérite d'être très éclairante. Et on sait bien que ce conflit a des retentissements chez nous, par exemple, sur une partie de la population française d'origine maghrébine ou arabe, qui ne manque pas, au moins dans sa jeunesse, de s'identifier au sort des Palestiniens. Et puis, il y a aussi les Français juifs qui ont un lien affectif fort, souvent, inconditionnel, parfois, avec Israël, et qui sont très souvent très inquiets et très malheureux de ce qui se passe dans ce pays auquel ils sont attachés. C'est dire s'il y a des retentissements. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, ce qui revient très fréquemment dans nos infos, c'est les liens ou l'absence de lien plutôt entre Israël et l'Iran, le nucléaire iranien, qui angoisse au moins le pouvoir israélien, je suppose, les Israéliens aussi, alors même qu'Israël est une puissance nucléaire militaire très importante, et ça aussi, ça nous concerne. Donc voilà, plusieurs raisons qui font que ce bouquin ne manque pas d'être quelque chose qui correspond à une situation cruciale et névralgique. D'autant plus que vous dites la colonisation israélienne est quelque chose de plus inquiétant dites-vous, c'est une provocation, mais vous allez vous expliquer, est plus inquiétant que la question des relations avec l'Iran ou la crainte du nucléaire iranien. Pour vous, la question cruciale, c'est la colonisation.
Écoutez, la colonisation et les colonies, c'est un sujet qui est là. C'est une réalité que nous vivons depuis presque un demi-siècle. Et ça a changé complètement le cours de l'histoire d'Israël. Ça a conquis Israël de l'intérieur. Comme j'écris dans le livre, les colonisations, les colonies ont colonisé Israël. Et l'occupation militaire, qui est bien sûr interdépendante avec les colonies, c'est l'occupation qui soutient les colonies et les colonies qui nécessitent l'occupation, sont devenues une partie intégrante de l'histoire d'Israël, de la société israélienne, de la moralité d'Israël, du profil moral d'Israël, du statut international d'Israël. C'est-à-dire, c'est tout, ça a conditionné complètement l'État d'Israël et la société d'Israël, et pas pour le bien, pour le mal. Ça a changé vraiment le cours de l'histoire vers... je ne voudrais pas être catastrophiste, mais on va à la mauvaise direction. C'est-à-dire, Israël n'aura pas une démocratie avec les colonies. Israël sera isolé dans le monde avec les colonies. On est déjà assez isolé. Alors, les colonies, c'est le grand sujet, c'est le grand éléphant dans la chambre, qu'on fait tout pour contourner,
oui, c'est ça, contourner. Pour ignorer, oui, ne pas voir.
Et je m'excuse pour les éléphants, c'est un animal très gentil. Alors peut-être que ce n'est pas une bonne métaphore. Je dirais même que c'est le grand monstre dans la chambre qu'on essaye d'oublier, qu'on essaye de refouler.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos compatriotes en pensent quoi? L'homme de la rue, l'Israélien de la rue, il en pense quoi? Il s'en fout? Il est d'accord?
Qu'est-ce que les gens pensent? Les gens ont peur de la politique israélienne vis-à-vis l'Iran. Personne ne voudra, personne. Il ne faut pas exagérer, il y a toujours une bonne partie de cinglés. Mais la grande majorité, je pense, ne voudrait pas qu'Israël attaque l'Iran. Pas du tout. Elle voudrait qu'il y ait un arrangement, un accord. C'est comme la grande partie des Israéliens qui ne veut pas des colonies.
Une grande partie des Israéliens ne veulent pas des colonies.
Tous les sondages le montrent. La grande partie de la population israélienne ne veut pas des colonies.
Et pourtant, Israël, le grand Israël, bon, la mission biblique, la grande histoire.
Écoutez, il y a un courant dans la société israélienne, dans la population israélienne, qui est messianique, qui est millénaire, qui croit en des saintetés anciennes, primordiales, etc., en la sainteté de chaque pierre de la Cisjordanie, etc., et qui en fait un symbole, qui en fait tout un temple. Bon, mais la grande partie de la population israélienne, c'est des gens normaux.
Dans votre bouquin, au début, vous donnez une carte de la Cisjordanie. C'est une peau de chagrin, quoi. Le mot qui correspond exactement à ce que devient cette partie du territoire palestinien. C'est une peau de chagrin avec une tristesse terrible, avec ces colonies qui sont reliées entre elles, pour ceux qui sont jamais allés là-bas, par une absurdité totale de routes qui se supposent posent les unes aux autres, de circulation, d'infrastructures, de l'eau qui va d'une colonie à l'autre et qui ne va pas pour les Palestiniens, etc. Comment est-ce qu'on fait pour être Palestinien aujourd'hui en Cisjordanie ou à Gaza? Comment peut-on être encore Palestinien dans ces territoires?
Écoutez, je ne peux pas vous dire parce que je ne peux pas vraiment m'imaginer, c'est-à-dire imaginer l'existence palestinienne. C'est tellement intenable, c'est tellement immoral ce qu'on inflige aux Palestiniens que ça serait vraiment prétentieux de dire que je sais comment un Palestinien ou une Palestinienne vive tous les jours, mais je sais que c'est impossible. C'est une tâche morale pour l'éternité sur Israël, de maintenir cette occupation, et il faut en finir tout de suite. Mais quand vous parlez de cette peau de chagrin, ça a été fait exprès. Cet éparpillement des qui d'ailleurs est très stratégique. Israël, qui est en général n'est pas très stratégique, parce que encore une fois, chaque jour c'est un miracle. Pour le juif, c'est vrai, c'était dans l'histoire, chaque jour de vie était un miracle. Ça, d'un côté, de l'autre côté, on est très millénaire, et très messianique, etc. Mais là, c'est surtout Ariel Sharon qui est le grand cerveau de la colonisation. Ça a été fait exprès pour ne pas permettre une continuité territoriale palestinienne. Et pour couper en deux la Palestine, ou le peu qui reste de la Palestine, parce que ce qu'on a, c'est seulement 22% de la Grande Palestine. Et même ce 22% du territoire de la Grande Palestine, on ne leur donne pas aux Palestiniens. C'est ça l'injustice énorme qu'on inflige aux Palestiniens. Quand vous demandez qu'est-ce que les Palestiniens pensent, écoutez, la grande majorité des Palestiniens aujourd'hui ne connaissent pas une autre réalité. Mmh. Ils ne connaissent que l'occupation israélienne. Et le même, on peut dire le même sur la population israélienne. Des millions d'Israéliens ne connaissent pas du tout une autre réalité. Mmh. C'est-à-dire, ils ne savent même pas à quoi aspirer, à quelle normalité aspirer. Et ça, c'est la tragédie. C'est-à-dire, on est conditionné déjà, profondément conditionné à cet état d'occupation, cet état d'humiliation d'un peuple par un autre peuple.
Là-bas, si j'y suis, en Cisjordanie, novembre 2011.
Qu'est-ce que c'est que cette fable que cette terre appartient aux Arabes? Il dit, c'est une chèvre qui laisse quelques crottes quelque part, ça lui appartient.
Il n'y a pas d'État palestinien. Et si les Arabes veulent rester chez nous, reconnaître nos souverainetés, nous les accueillons avec les bras ouverts, quoi. Sinon, ils doivent chercher leur souveraineté autre part. Chacun a son pays, c'est pas mon problème.
Il est en train de dire, il n'y aura jamais de paix. Il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de paix. Pas parce que nous ne voulons pas la paix, mais parce qu'eux, ils ne le veulent pas, ils n'en sont pas capables. Eux, c'est les Arabes.
Quel est le poids de ces colons? Qui sont-ils, ces colons? Que veulent-ils? Quel est leur poids politique dans la vie israélienne?
Ça, c'est très important. Premièrement, ils comptent aujourd'hui 550 000. Et il faut compter tous ceux qui habitent dans les colonies qui entourent Jérusalem. Qui, en général, pour des raisons de minimiser le problème, on ne les compte pas. On dit qu'il y a seulement 350 000. On ne compte pas les 200 000 colons qui habitent autour et qui étouffent la partie est de Jérusalem, qui devrait être la capitale d'un État palestinien. Bon, ils représentent le peuple d'Israël. Il y a de tout. Il y a le noyau idéologique des gens qui ont mené cette énorme campagne de colonisation. Il y a déjà leur progéniture, deuxième et troisième génération. Et il y a des gens qui ont cherché des logements à bon prix.
Voilà.
Il y a des gens qui ont cherché de l'air, de bon air, parce que c'est la montagne. C'est un très beau paysage.
Oui.
La Cisjordanie, c'est vraiment un beau pays. Et il y a des gens qui ont cherché vraiment une solution de meilleure qualité de vie et logement à bas prix. Et le gouvernement et ont toujours manipulé ce besoin économique d'une grande partie de la population pour envoyer les gens là-bas.
Je parlais, c'est l'Ovrio.
Ah, tout le monde se lève.
Parce que c'est le rabbin qui se lève.
Là-bas, si j'y suis.
Là, tout le monde se rassied.
Novembre 2011.
Alors, c'est le rabbin d'Ovrio. C'est une des autorités des colons, une des autorités spirituelles des colons, qui a écrit l'introduction, et il y a même une procédure juridique contre lui. On a ouvert une enquête sur l'illégalité de ce qu'il avait écrit, à savoir dans quelles conditions on a le droit de tuer des non-juifs. Un goy qui a occupé une terre qui nous appartient, et cette terre nous a été donnée par Dieu, on a le devoir de les tuer.
Le devoir de les tuer?
Oui.
Tout le monde est là, calmement. Et c'est un vieux monsieur, la barbe blanche, tout calme, tout docte, qui est en train de dire ça.
C'est un ensemble de fous furieux, tous les rabbins. C'est l'extrême droite des colons.
Et on est dans un de leurs bastions, ici.
Oui, à Migron.
Celui qui était derrière nous, là, qui vient de sortir, il a un revolver à la ceinture.
J'imagine que la plupart d'entre eux...
Il y a un monsieur qui passe devant nous avec un M16, je crois. Donc un fusil militaire. L'autre a un revolver pour moi à saillir de sa poche. Avec deux chargeurs, là.
Qu'est-ce que c'est que cette fable que cette terre appartient aux Arabes? Il dit, c'est une chèvre qui laisse quelques crottes quelque part, ça lui appartient. Il y a une occupation, c'est l'occupation qu'avait occupé les non-juifs cette terre. Lorsque les Romains nous l'ont volée, les prophéties nous disaient qu'on avait le droit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour les expulser. Tout, ça veut dire tout.
Les colons qu'on a rencontrés, dit Zertal, au cours de nos reportages, s'appuient toujours sur la religion, sur les écritures, sur la Bible, etc. Vous leur accordez cette légitimité dans la religion juive, on trouve une justification?
On ne trouve pas une justification pour la conduite des colons. Mais dans les Écritures, il y a cette terre qui est perçue comme la terre ancienne de la nation juive. À mon avis, et moi je ne suis pas de l'avis des colons, à mon avis, ça ne nous donne pas droit à expulser des gens qui habitent depuis des siècles, pas du tout. Et ce qui se passe en réalité, c'est que ce sont des nouveaux venus. Parmi les colons, de nouveaux venus, des gens qui sont venus, par exemple, de la Russie.
De l'Union, après 89, après la chute du mur.
Non, même dans les années 70.
Ah oui.
C'est la première grande vague de l'immigration russe, qui a changé d'ailleurs le profil du pays, le profil et politique et culturel, pour le bien, pour le mal. Et c'est de nouveaux venus, de nouveaux immigrants, qui se sont installés pour des raisons surtout économiques, parce que ce n'étaient pas nécessairement des gens religieux, qui se sont installés dans les territoires. Et ils se voient seigneurs de la terre, littéralement. Ils verraient avec grand plaisir l'expulsion des gens qui habitent depuis des générations. Il y a beaucoup de colons d'origine russe qui se sont installés dans les colonies, dont Avigdor Lieberman, notre ministre des Affaires étrangères, le chef de la Knesset, je ne sais pas comment, le speaker de la Knesset, Yuli Edelstein, ils sont des colons venant de Russie. Ils ne sont pas nécessairement religieux. Et ce sont des gens qui sont venus en Israël il n'y a pas très longtemps. Alors il y a la croyance religieuse dans la sainteté de cette terre, la sainteté juive et l'appartenance juive de cette terre. Mais il y a aussi des raisons d'intérêt, etc., et de puissance, et de... C'est nous le Seigneur.
Est-ce que ça marche finalement? Est-ce qu'on peut dire, du point de vue des colons, que ce soit à des fins idéologiques ou à des fins pratiques d'habitat, quoi. Est-ce que c'est un succès finalement, ces colonies?
C'est
de leur point de vue.
De leur point de vue, je pense que c'est un succès, mais qu'il faut encore renforcer la chose, c'est-à-dire pour le rendre encore plus grand. Écoutez, 560 000 personnes et citoyens israéliens qui se sont installés au-delà de la frontière reconnue par la communauté internationale, dont la ligne verte. C'est quand même un exploit remarquable, très impressionnant. Eux, ils voudraient voir 1 million, 2 millions.
En violation du droit international.
Bien sûr.
En violation de tout.
Oui, mais quand on navigue dans ce royaume apolitique, de la croyance, de la religion, etc., du messianisme, et les lois locales, et les lois internationales ne comptent pas beaucoup. Alors la loi internationale, c'est pas un obstacle pour les colons, ceux qui sont croyants.
Mon nom est Zuckerman et j'enseigne à Jérusalem, à la yeshiva qu'on appelle Haramor. J'ai une grande famille de 12 enfants.
Mm-hmm. Là-bas, si j'y suis, novembre 2011.
Je suis venu ici en Israël en venant de Bruxelles. Et donc, voilà la source de mon français.
Depuis quand vous êtes ici?
Ça fait déjà plus que 50 ans.
Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici dans cette implantation? Quelle est la raison de votre présence ici?
Cette réunion-là, donc, c'était en fin de compte, il y a eu 3 maisons détruites. Par le fait qu'il y a des pressions internationales qui, en fin de compte, essayent de dénigrer le droit de notre peuple, un droit historique, de revenir sur sa terre. En d'autres termes, le droit historique d'Israël qui a été chassé par la Roumanie à peu près 2000 ans, le droit historique, c'est que chaque nation a droit à une terre. La nôtre, dans notre souveraineté, notre royaume, était depuis David Hameler. Le roi David, pendant 900 ans. Et voilà notre peuple reconnu par la Société des Nations il y a 70 ans, je crois. Mm-hmm. Donc, est revenu reprendre sa position ici en Israël et être souverain. Il est impossible qu'on soit souverain, évidemment, sans que nous ayons des frontières qui soient viables. De même, ici, nous devons savoir que le Jourdain est la frontière d'Israël. Être souverain sur notre terre.
Entre le Jourdain et la mer.
Entre le Jourdain et la mer Méditerranée.
Donc ça veut dire pas d'État palestinien.
Il n'y a pas d'État palestinien. Et si les Arabes veulent rester chez nous, reconnaître nos souverainetés, ce sera un problème, car toujours quoi, des minorités avec d'autres cultures et d'autres cultes. C'est un problème, mais nous les accueillons avec les bras ouverts. Quoi. Mm-hmm. Sinon, ils doivent chercher leur souveraineté autre part. Chacun son pays, c'est pas moi à chercher leur solution. Nous pouvons peut-être trouver des autres endroits comme suggestion, c'est tout.
Donc pour vous, la solution, c'est le déplacement des Palestiniens vers la Jordanie?
Non, non, non. Je ne cherche pas une solution, car c'est pas mon problème.
Revenons aux colonies. Revenons à la colonisation. Finalement, le but final, j'ai pas dit la solution finale, mais le but final de cette colonisation, c'est quoi? C'est de faire disparaître non seulement la chance d'une paix, mais c'est bel et bien de faire disparaître les Palestiniens. Et de les réduire à des petits bantoustans, une espèce de petite réserve avec quelques Palestiniens à la façon des réserves des natives et des Indiens aux États-Unis.
Oui, mais vous savez que Ariel Sharon a parlé, pas ouvertement, mais dans des milieux clos comme ça, d'un bantoustan palestinien. Il parlait de ça. Et il en a fait tout pour en créer un Bantoustan. C'est-à-dire, il a éparpillé les colonies d'une telle façon qu'il n'y aurait pas une contiguïté comme ça, géographique, territoriale.
Je me souviens d'un bouquin qui s'intitulait « Israël en danger de paix ». Comme s'il y avait une incapacité à faire la paix, à aller vers la paix, et comme si la paix était un danger. Comme si seul l'état de guerre, l'état d'un pays encerclé, comme ça, pouvait être une solution politique, étant donné quand même la diversité des composantes de la population israélienne, pas seulement israélienne, juive et israélienne arabe, mais à l'intérieur du monde juif en Israël, on a des gens qui viennent du Yémen, d'Éthiopie, de Pologne, du Maroc, etc. Mais enfin, on se dit, bah voilà, c'est le coup classique, quoi. On a la guerre autour, donc il y a une sorte d'union plus ou moins sacrée qui fait que les Israéliens disent tous, nous, ce que vous venez de dire d'ailleurs, nous les Israéliens, on est attachés, attention, faut pas vous tromper, on est Israéliens, on tient à ce pays, on est là, mais, alors il y a plus ou moins de mais. Vous, c'est quand même un mais assez radical, mais pas définitif, qui ne remet pas en cause évidemment la légitimité d'Israël, vous remettez pas ça en cause. Vous dites, un autre Israël est possible et un Israël de paix.
Oui, je me souviens que vous m'avez posé cette question
il y a 8 ans.
Au sujet de la légitimité d'Israël, oui, oui. Et je me souviens aussi de ma réponse.
Oui.
Je vous ai dit, allons parler de la légitimité de la France et après on va parler de la légitimité d'Israël. C'est pas une question à laquelle j'ai intérêt à répondre parce qu'elle est illégitime à mon avis, la question même de la légitimité d'Israël. Bien sûr, c'est nous. Moi, je suis attaché au pays, pas parce que, à cause de cette politique de haine, politique de suspicion, politique d'isolation, politique de ghettoisation, pas du tout. Mais c'est vrai que la guerre soude ce qu'on appelle le peuple israélien et la politique de l'isolation. Mais il y a un trait très, très juif en ça. Si vous pensez à l'histoire juive, écoutez, c'est un peuple quand même, historiquement parlant, c'est un peuple persécuté, c'est un peuple expulsé, c'est un peuple exterminé, etc., etc. Il y a des bonnes raisons, mais à mon avis, il aurait fallu, il y a très très longtemps, de se libérer déjà de ces traumatismes historiques. On est un pays très très fort, puissant, c'est une puissance régionale. Puissance militaire, en fin de compte, il faut vraiment devenir normal et mener une autre politique, une politique de plus de confiance, de plus de générosité, de plus d'ouverture au monde, de plus de réciprocité. On exige tout le temps des privilèges et des exclusivités. Et le problème iranien en est bon exemple. Écoutez, Nous sommes la puissance nucléaire unique dans la région.
Bien sûr.
Pourquoi ne pas réciproquer ? Par exemple, je vais vous donner un autre exemple, parce que ça touche au conflit, et on parle du conflit, n'est-ce pas ? Israël exige des Palestiniens qu'ils reconnaissent le fait que l'État d'Israël est un État juif. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre reconnaisse ma judéité. C'est une des exigences qui bloque, soi-disant, les pourparlers, les négociations. Moi, j'en crois pas, mais disons. Et disons que c'est une exigence correcte. Pourquoi ne pas réciproquer ? Pourquoi ne pas reconnaître, par exemple, la Nakba palestinienne ? En échange, faire ce grand geste de générosité envers les Palestiniens.
C'est-à-dire la Nakba, c'est-à-dire la défaite
de 48.
La fuite des Palestiniens, c'est peut-être, les massacres
des Palestiniens. Il y a une partie qui ont fui, mais il y a une grande partie des Palestiniens qui ont été expulsés quand même. Il faut le reconnaître. Pourquoi ne pas reconnaître l'histoire ? Nous, on a gagné la guerre, on a eu l'indépendance, on a eu cette victoire constituante. Mais les Palestiniens ont été démunis de tout, de leur terre, de leur maison, de leur vie, etc. 750 000 Palestiniens ont perdu leur maison et leur terre en 48.
وقفت وسط الغرفة أفتش عن جعبي أتفقد المنفضة اللمبة الخسارة الربح الباب التصاوير وضأمت حتى صبرت كثيرا أمام الباب لأدخل ثم لأخرج ثم لأتمدد بلا صوت على السرير المفتوح الأعزل الأخرس وتذكرت يوم قتلت واغتصبت وقطعت إربا إربا سيجارة سيجارة وسحلت وبكيت للمرة الأولى على موتي وعلى الطبيعة.
John Kerry a rencontré en Cisjordanie le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans l'espoir de faire avancer les négociations de paix avec Israël.
Euronews.
Des négociations qui ont connu un coup d'arrêt après l'annonce de nouvelles constructions israéliennes dans les colonies.
6 novembre 2013.
Pour le secrétaire d'État américain, l'État hébreu doit limiter ses projets d'expansion s'il veut donner une chance à la paix.
Nous considérons maintenant, et nous avons toujours considéré, que les colonies étaient illégitimes. Et je veux dire très clairement qu'à aucun moment, les Palestiniens n'ont, de quelque manière que ce soit, consenti lors de la reprise des pourparlers à entériner ou à accepter la colonisation.
Un peu plus tôt dans la journée, John Kerry avait rencontré Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Le Premier ministre israélien a lui fustigé le comportement des Palestiniens.
Je suis préoccupé car je vois que les Palestiniens continuent leur incitation à la violence. Ils continuent à créer des crises artificielles, à éluder des décisions historiques qui sont nécessaires pour établir une paix véritable.
Israël a annoncé la construction de 3500 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie et Jérusalem-Est, une annonce effectuée après la remise en liberté de prisonniers palestiniens. Israël soutient que cet échange avait été accepté dans le cadre des négociations, ce que contestent les Palestiniens.
Avec votre bouquin, Edith Zertal, je rappelle que vous êtes deux auteurs, quand même, il y a Akiva Eldar aussi qui a travaillé sur ce livre, Les Seigneurs de la Terre. Vous faites un état des lieux, c'est le cas de le dire, et puis vous faites l'histoire. Donc cette fois, enfin, on a tous les éléments. C'est-à-dire que John Kerry, il peut lire ce livre dans l'avion en venant de Washington. Voilà, il y a tous les éléments. Maintenant, vous les avez donnés, c'était épars, c'était par morceaux, on s'était fait des idées là-dessus, etc. On avait des données, beaucoup, vous avez tout regroupé. Alors, quelle est la solution? Vous auriez John Kerry en face de vous qui vous dirait, dites donc, Madame Zertal, quelle est la solution? Dès lors que vous dites, localement, c'est pas possible, ça peut pas venir d'Israël, surtout l'Israël actuel, avec la politique israélienne actuelle, vous avez un espoir dans vos compatriotes, hein, qui, vous le dites et vous le répétez, eux ont envie d'avoir une vie normale et tranquille. Vous pensez évidemment que les Palestiniens veulent leur État, ça, on n'a pas besoin de faire des grands sondages pour savoir de ce côté. Alors vous dites, ah, mais la solution ne peut venir que de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Europe, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les forces qui ont un pouvoir, qui peuvent intervenir. Donc M. Kerry est en face de vous et vous dit, Madame Zertal, dites-moi, qu'est-ce que vous me conseillez?
Écoutez, on peut prendre le modèle des accords qu'il vient d'avoir, lui et les autres puissances, avec l'Iran. Et c'est vrai, c'est, à mon avis, c'est admirable ce qu'il a fait. Et il a entrepris une manœuvre qui était sans beaucoup de chances de réussir. Et il a mené contre-courant parfois, même contre la France. Et ils sont arrivés à un accord. Bien ou mal, c'est quand même un accord, c'est quand même une étape vers une solution. Dans une perspective beaucoup plus grande et plus complexe, parce que le conflit israélo-palestinien est plus complexe, à mon avis, que ce problème du nucléaire de l'Iran. ce que John Kerry fait, c'est aussi c'est remarquable. Mmh. Mais pour le moment, je pense qu'il doit mobiliser l'Europe, que l'Europe doit adhérer à ses efforts et qu'ensemble, les puissances... Le problème, c'est que ces puissances sont très affaiblies dernièrement. Mais que
les puissances desquelles ? Les États-Unis ?
Et les États-Unis et les États européens.
Bien sûr.
Regardez la France, par exemple. Mmh. Je pense que la France doit être une part, fait partie de ce conglomérat de puissances qui imposerait une solution au Proche-Orient sur les deux protagonistes de ce conflit, les Israéliens et les Palestiniens. Le package, le paquet, ça doit être un paquet et d'aide économique et financière et politique, etc.
Pour faciliter le retour
d'une grande partie de colons. Ça ne sera pas facile. Par exemple, de réintégrer aujourd'hui 1,5 million d'Israéliens farouches, extrémistes, etc., humiliés, etc., dans la société israélienne, ça ne sera pas facile. Et aussi un côté de sanctions. Sanctions, pourquoi pas ? Sanctionner si ces deux parties, deux protagonistes, essayent de casser les accords.
Le boycott, vous croyez au boycott ?
Je ne sais pas quoi vous répondre. Mm-hmm. J'ai répondu à cette question qui m'a été posée et j'ai dit que...
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge.
Non, mais que s'il y avait un boycott, le livre sur les colonies ne serait pas publié en France. Ou le film, le documentaire de Dror Moret sur les chefs du Shabak qui parlent ouvertement de l'occupation malheureuse et disent qu'on doit mettre fin à cette occupation. C'est les chefs du Shabak qui disent, pas moi, pas Idit. Alors, vous n'auriez pas cette occasion, cette chance de voir ce documentaire sur Arte. Alors, vous voyez, c'est compliqué. Mais je voudrais que dans le cadre d'une solution et compréhensive de ce conflit, accompagnée par une aide financière, économique, etc., aux Palestiniens, aux Israéliens aussi, il y aura pour la première fois des sanctions contre l'occupation militaire d'Israël, contre les colonies d'Israël. Oui.
Je vous trouve très courageuse parce que quand on entend votre Premier ministre, on se dit qu'entre lui et vous, il y a quand même un fossé.
Il y a tout un pays entre nous, entre lui et moi.
Voilà, Edith Zertal. Retenez bien ce nom, Edith Zertal, et ce livre, Les Seigneurs de la Terre, histoire de la colonisation israélienne des territoires occupés. C'est au seuil, c'est un monument et un document extraordinaire. Et puis il y avait des extraits des reportages de là-bas, si j'y suis, en Palestine, avec Guy Van Til, qui datait de 2011. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de Là-bas si j'y suis qui attend vos réflexions, vos messages auxquels nous répondrons. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Gaël Braouzek. Le montage, c'est Jonathan Duong qui a assuré le montage de cet entretien. Et l'émission a été réalisée par Franck Adhéraire et Guillaume Giraud. Stéphane Fromentin, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. On va partir aux États-Unis probablement, si tout se passe bien, demain, et on va vous faire découvrir, je pense à beaucoup d'entre vous, un phénomène, une écrivaine très très peu connue par ici, qui s'appelle Ayn Rand, et qui est une des clés de la mentalité américaine. Ça va vous passionner comme ça nous a passionnés. À demain donc, 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Malheureusement. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici?
Ah, alors c'est une séance de dédicace organisée par Trinom Édition, donc, où on présente trois auteurs.
Mais alors, c'est votre maison d'édition?
Tout à fait, et que je dirige avec Marie Barillon, qui est directrice d'ouvrage, et Laure Mézarig, qui dédicace ce soir.
Trinom.
Trinom Édition.
Parce que vous êtes trois?
Parce que trois membres fondateurs.
Voilà.
Voilà.
Bonjour à tous et bienvenue au Café Livre à Paris, où Trinom Édition, une excellente maison.
En tant qu'auteur, je peux le dire.
Je comprends, oui, puisqu'il vous est dit, vous n'allez pas dire le contraire.
Moi, je suis édité ailleurs aussi.
Ah bon?
Mais véritablement quelqu'un qui le fait avec passion et honnêteté. C'est pas si souvent.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de bouquins partout ici. On est dans un café, mais...
Ben, c'est le Café Livre, donc c'est quand même une invitation à la littérature. Et nos trois ouvrages, en fait, sont là-bas, présentés en dédicace. Et vous avez les trois auteurs. Donc Lisa Giraud-Taylor, Hélène Crombet et Laure Mézarig, qui sont ici.
D'accord, mais c'est très délicat.
Je vous invite à les découvrir.
Oui, bien sûr, mais je n'ai pas le temps de lire les trois livres. Là, quand même.
Ah, mais elles vont vous le présenter, chacune à leur tour.
Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Vous ne voulez pas présenter votre livre? Bon, alors, elle fait des chichis, tant pis. Vous voulez bien?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, le titre de mon livre, c'est « Fleurs de bitume ».
Fleur de bitume.
Voilà, donc en fait c'est le nom d'une prostituée qui vient de raccrocher, qui rencontre pour la première fois son petit-fils, qui s'appelle Moulinette, qui a 10 ans. Et son petit-fils en fait va raconter le quotidien de sa grand-mère à travers de l'argot qui revisite un petit peu à sa manière parce qu'il ne maîtrise pas tout à fait le français, et des perles d'enfance. Voilà, c'est une histoire d'humour entre une femme qui est au crépuscule de sa vie et un gamin qui va lui redonner le goût à la vie.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ça, vous ?
Eh ben, c'est un bouquin que j'ai lu il y a très 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 longtemps, qui a été un vrai vrai coup de foudre. C'est La vie devant soi, de Romain Gary, qui a à peu près la même texture, qui a à peu près la même ambiance, qui a à peu près le même tempo au niveau des personnages. Et en fait, ce livre m'a tellement marqué que j'ai voulu, à ma manière, reproduire un petit peu le même type d'histoire d'amour entre une femme et son petit-fils.
Et vous vivez de votre plume ?
Bah, évidemment que non. Ce serait trop beau.
Ouais, je sais pas, moi.
J'aimerais tant vivre de ma plume. Non, enfin, là, je... Non, bah non.
Et vous vivez de quoi, alors ?
Eh ben, je suis dans la vraie vie, je travaille pour une société qui vend des logiciels de gestion de bibliothèque. Bon, là tout de suite c'est beaucoup moins glamour, mais bon, c'est un petit peu mon quotidien quand même. Et donc je vis de ça. Voilà.
D'accord.
Donc mes clients sont des bibliothécaires en fait.
Bon ben, bonne chance alors.
Ben, merci beaucoup.
Bon, alors, le deuxième auteur est par là-bas, hein. Je sais pas où c'est.
En rouge.
En rouge.
Je suis le deuxième auteur, Lisa Giraud-Taylor.
Liverpool Connection.
Tout à fait.
Et alors c'est quoi ça?
C'est un thriller d'anticipation qui se passe dans les années 2017-2018, donc très proche.
Okay, ouais.
Et c'est une jeune femme qui à la base est une jet-setteuse qui est assez frivole et qui utilise l'argent de ses parents pour faire la fête. Qui se retrouve.
C'est votre cas?
Non, pas du tout.
Donc vous, votre histoire, c'est quoi?
Moi, à la base, je suis passionnée de littérature depuis des années. Je suis aussi photographe. Je tiens un blog. Je fais des chroniques musicales, que ce soit du groupe de pop-rock ou électro.
Et c'est votre premier roman?
C'est mon premier roman. Pas le premier ouvrage, mais le premier roman, oui.
Et vous vivez de quoi?
Moi, je suis assistante de direction dans la fonction publique. Donc, voilà.
Ça vous permet de vous évader, quoi?
C'est, on va dire que assistante de direction, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que c'est un boulot passionnant, surtout mon poste. Mais ça me permet de vivre, ouais. Voilà, et de faire vivre ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire et publier. Voilà.
Bon, bah alors, bonne chance.
Merci à vous, c'est gentil.
Et alors vous, la troisième?
Bonsoir, Hélène Crombet. Je présente Sur le fil, qui est mon premier recueil de poésie. Voilà.
Bon, bah, un petit poème.
Là, tout de suite?
Ouais.
Je le connais plus par cœur.
Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites à part écrire des poèmes?
Je termine ma thèse à l'université de Bordeaux 3.
Une thèse sur quoi?
J'analyse l'expérience d'altération identitaire que connaît le lecteur qui est immergé dans ses œuvres.
Là,
oui, les intitulés de thèse, généralement...
Pointu.
Oui, il le faut, je pense.
Mais alors là, en vous parlant, j'ai l'impression d'interviewer le prix Goncourt, tout le monde nous prend en photo et tout.
Oui, c'est vrai que... j'habite à Bordeaux, mais je suis originaire du Nord, donc j'ai amené quelques personnes qui habitent là-haut.
Bon, je vous souhaite bonne chance, alors.
Merci beaucoup.
Voilà, je gère cette formidable équipe d'auteurs. avec beaucoup de passion.
Votre maison d'édition, si j'ai bien compris, elle a à peine plus d'un an.
Elle a été créée en juin 2012.
Et
on a déjà publié 9 ouvrages.
C'est ce qu'on m'a dit.
Donc un rythme de publication assez soutenu, on va dire. Mais parce que voilà, il y a eu des beaux projets qui se sont présentés et comme on gère ça avec beaucoup de passion, eh bien, on essaye toujours de...
Et alors vous gagnez votre vie ?
Non, j'exerce un tout autre métier à côté, à 150% de mon temps aussi, mais c'est une passion et j'essaye de faire vivre pour faire connaître de beaux auteurs et faire vivre la littérature du mieux possible. Voilà.
Et vous faites quoi à côté ?
Je suis dans un tout autre domaine, je suis collaborateur comptable et audit dans un cabinet d'expertise comptable.
Ah oui, c'est beaucoup moins glamour.
C'est beaucoup moins glamour, mais ça me sert beaucoup malgré tout dans ce milieu pour garder les pieds sur terre, parce que malgré que je sois un passionné, ça me permet aussi de canaliser et de gérer au mieux pour protéger les intérêts de tous les auteurs qui font partie de l'aventure. Voilà.
Et votre nom ?
Clément Chatin. Un temps de cochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
La Maison de la Radio fête ses 50 ans tout rond.
Et diffuse pour l'occasion un concert unique et exceptionnel.
Mardi 17 décembre à 20h, vivez l'événement en direct de toutes les antennes du groupe.
Au programme, Eddy Mitchell et l'Orchestre National de France. Agnès Obel, le cœur et la maîtrise de Radio France.
2 heures de musique mêlant pièces classiques et variétés françaises.
Un mélange des genres dans la grande tradition des concerts mythiques de Radio France.
Ce concert inaugural sera également retransmis en direct live et en vidéo sur l'écran géant installé pour l'occasion sur le parvis de la Maison de la Radio à Paris.
Nous vous y attendons.
Les 50 ans de la Maison de la Radio, c'est le 17 décembre dès 20h.
Depuis chez vous ou devant chez nous.
Plus d'informations,
radiofrance.fr.
Mais j'entends.
France Inter présente A Touch of Sin, le nouveau film de Jason Keu, actuellement au cinéma. 4 personnages, 4 histoires, 4 destins qui basculent dans la violence. Un portrait sans concession de la Chine d'aujourd'hui. Retrouvez A Touch of Sin de Jason Keu, prix du scénario au Festival de Cannes, le 14 décembre à 10h, dans On aura tout vu.
France Inter, le théâtre de la ville, avec le Festival d'automne à Paris, présente, du 12 au 20 décembre, Peter Pan, mise en scène par Robert Wilson. Pour cette nouvelle création, Robert Wilson a réuni la troupe du Berliner Ensemble et le duo Coco Rossi. Une invitation féerique au pays imaginaire de Neverland. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Estelle Schmitt.
Laurent Fabius dénonce tout usage de la force en Ukraine, appelle à la retenue et au dialogue. Le ministre des Affaires étrangères devait recevoir cet après-midi Vitali Klitschko, l'opposant champion du monde de boxe, mais ce dernier a dû reporter sa visite à cause de la situation politique en Ukraine. Et selon lui, un compromis avec le président Yanukovych n'est plus possible après les événements de ce matin. Des policiers anti-émeutes qui ont donné l'assaut à Kiev pour déloger les opposants rassemblés dans le centre-ville. La police a dû renoncer. 15 000 personnes pro-Union européenne sont toujours rassemblées dans la capitale. En Italie, le président du Conseil, Enrico Letta, obtient la confiance des députés. Il a présenté ce matin toute une série de réformes économiques et institutionnelles pour stimuler la croissance de son pays. En France, elle est l'une des rares femmes à avoir gravi tous les échelons de la police. Mireille Balestrasi est la nouvelle directrice centrale de la police judiciaire. Elle était numéro 2 de la PJ depuis 2010, présidente d'Interpol depuis un an. Bernard Petit, lui, est nommé à la tête de la police judiciaire parisienne. Il succède à Christian Flèche. L'UMP prépare les municipales et décide de suspendre à Paris tous les candidats qui se trouvent sur le passage de Nathalie Kosciusko-Morizet. En clair, 16 personnes qui y conduisent ou s'associent à une liste concurrente. Parmi elles, il y a Dominique Tibéri, le fils de Jean Tibéri. L'UMP qui organise demain une convention sur l'immigration qui proposera notamment de réformer le droit d'asile et le droit du sol pour les immigrés illégaux. De grosses perturbations attendues à la SNCF à partir de 19h, 5 syndicats appellent à la grève contre le projet de réforme ferroviaire. Le mouvement devrait durer jusque vendredi matin, 8h. Toujours à propos de transport en commun, les tarifs ont augmenté de 3% au 1er janvier en Ile-de-France. Le syndicat des transports répercute la hausse de la TVA qui passe de 7 à 10%. En Ile-de-France, où le seuil d'alerte aux particules fines sera de nouveau dépassé aujourd'hui pour la 4e journée de suite. C'est d'ailleurs une première depuis 2007. Du coup, la vitesse autorisée est à nouveau réduite de 20 km/h sur les autoroutes nationales et le périphérique parisien. Le magazine américain Time s'explique après avoir désigné le pape François personne de l'année 2013. Il est rare qu'un nouvel acteur de la scène mondiale suscite autant d'attention si rapidement, que ce soit parmi les jeunes ou les plus âgés, parmi les croyants ou les sceptiques, indique sa directrice.
Tous les dimanches, mais alors, à 20h10,
c'est presque un genre en soi.
Le masque et la plume.
J'aime bien ça.
Non.
Mais ouais. Jérôme Garcin.
Merci pour cette intervention. D'autres interventions, non ?
Littérature.
Donc jusqu'à la page 17, moi j'ai trouvé ça hilarant.
Cinéma.
Magnifique.
Théâtre.
Ah oui.
Laissez-moi terminer, Jacques, et vous me perturbez.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la plume,
on a envie de tout sauf de pleurer.
Rendez-vous ce soir dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Et il est 16h04 sur France Inter, c'est Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Mozart, qui avait parfois la dent dure, a dit « Il est le père et nous sommes les enfants ». Il parlait de Carl Philipp Emanuel Bach, un des grands fils de Jean-Sébastien, qui, sous des dehors assez tranquilles, assez pépères, on va dire, finalement fait évoluer son instrument, le clavier. Quel clavier ? Ben, le clavicorde, très discret, mais sur lequel on peut faire des nuances. Le clavecin, pour le concert, bien sûr. Et puis après, on est arrivé au piano forte, et Carl Philipp a montré que l'instrument pouvait servir aussi à exprimer des émotions. Il a dit d'ailleurs qu'il fallait que le processus musical exprime les sentiments, en tout cas aide à ce que le cœur soit touché et pas seulement l'intelligence frappée. Voici le presto d'une sonate en mi bémol majeur de Carl Philipp Emanuel Bach. Thank you. Carl Philipp Emanuel Bach, sonate en mi bémol majeur. Le Carl Philipp avait des doigts, on l'a entendu, et beaucoup d'inventivité. Nous avons pu admirer la vélocité de Jean-Baptiste von Lübt, au piano moderne, bien sûr. Les Allemands avaient tendance, à l'époque de Bach et puis après, tendance à dire qu'il n'y avait pas de musique en Angleterre. Ils disaient que c'était un pays sans musique. Ben, évidemment, on peut apporter un démenti aujourd'hui. Par exemple, William Boyce, qui est né à peu près en même temps que Carl Philipp, puisque Carl Philipp c'est 1714 et Boyce c'est 1710 ou 1711, on ne sait pas trop. Ben lui, il a eu quand même une très belle carrière en Angleterre. Il a été au service de la Chapelle Royale et puis il a écrit des pièces pour le théâtre, des pastorales, un oratorio, des compositions de musique sacrée, des odes pour les fêtes de la cour et autres pièces vocales profanes, 12 ouvertures, 12 sonates pour violon et basse, 8 symphonies, etc., etc. Puis à la fin de sa vie, il a été frappé de surdité et il s'est consacré à la compilation de pièces sacrées d'auteurs anglais. Voici, tiré d'une symphonie de William Boyce, un allegro.